Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le webcast de la sixième édition de l'enquête Chargeur menée par l'AUTF et BP2R, part of PwC Network. Je suis Sabrina Ziane, manager chez BP2R, et je suis ravie aujourd'hui de pouvoir co-animer cette session avec Xavier Viltard et Valérie Cornet-Ambroise, qui vont également se présenter à vous.
Bonjour, je suis donc Valérie Cornet, je suis déléguée au transport terrestre à l'AUTF. L'AUTF, c'est l'association des chargeurs, donc on regroupe l'ensemble des donneurs d'ordre au transport et je m'occupe donc de routiers, de ferroviaires et de transport fluvial également.
Bonjour à toutes et à tous, Xavier Viltard, je suis associé au sein de BP2R, donc qui est un cabinet de conseil en supply chain spécialisé en transport de marchandises et qui a rejoint en août 2023 le réseau PwC.
Alors, comme les années précédentes, nous avons consulté un panel assez large de chargeurs et nous avons pu collecter 154 réponses. Comme vous le voyez ici, le secteur d'activité des chargeurs répondants est assez varié. Nous avons des industriels, des distributeurs, des coopératives, mais également des sociétés de services. Et vous le voyez aussi, des sociétés de taille différente, des PME, des ETI, également des grands groupes. Nous remercions par ailleurs les 154 répondants qui se sont prêtés au jeu. Donc cette année, et comme les années précédentes, les questions posées s'intéressent à plusieurs thématiques que nous aborderons aujourd'hui, telles que la volumétrie transportée, la capacité de transport, la qualité de service, le prix, les achats, et pour finir, quelques questions d'actualité. Des thématiques que nous avons pu voir également sur les années précédentes, ce qui nous permettra de pouvoir constater l'évolution des indicateurs. À l'issue donc de cette présentation, nous vous proposons donc de répondre à toutes vos questions. Par ailleurs, sachez qu'une étude plus complète vous sera partagée dans les prochaines semaines. Pour commencer, nous vous proposons de parler donc de l'activité de nos chargeurs avec un focus tout particulier sur la volumétrie transportée.
Alors en effet, c'est traditionnellement la première question qu'on pose dans cette enquête, c'est comment a évolué le volume global transporté par route pour votre entreprise au cours de l'année écoulée. Ce qui est très frappant sur 2023, on voit que un chargeur sur deux répondant à l'enquête signale des volumes en récession. C'est la plus mauvaise année depuis le Covid. Après un phénomène de rebond en année 2021-2022, on voit que là vraiment depuis la crise ukrainienne, les volumes sont vraiment en berne. En termes de prévision pour 2024, on peut imaginer que les chargeurs voilà, pensent qu'on a relativement touché le fond, si je puis dire. Et donc on parie sur des volumes en stagnation, voire légère hausse, voilà, un petit retour de volume, mais qui reste encore très léger.
Merci Valérie. Alors de pair avec la volumétrie, nous allons voir maintenant ce que les chargeurs pensent de la capacité de transport fournie par les prestataires.
Alors, comme à l'habitude, on questionne nos chargeurs sur l'adéquation entre l'offre et la demande, donc que vous retrouvez dans le graphique à droite. Intéressant de constater que les années se suivent, mais ne se ressemblent pas. On voit très clairement en jaune apparaître les années de sous-capacité et en rouge-rose les années de surcapacité. Vous le voyez, sans grande surprise, les phénomènes avant Covid et durant Covid. 2022, qui est une année extrêmement marquée sous le terrain des tensions capacitaires, qui se sont prolongées de manière assez intense, on va dire, jusqu'à la milieu de l'année 2023. Et puis, depuis 2023, milieu 2023, on est sur un marché qui est beaucoup plus équilibré et qui est aujourd'hui, vous le voyez, pour 2024, perçu comme surcapacitaire, pardon, donc une offre supérieure à la demande. Intéressant de constater que 13% des chargeurs font état quand même de difficultés à acheter, probablement sur des métiers de niche. Voilà, en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est du jamais vu par rapport à notre sondage, à la première année où effectivement on constate un tel déséquilibre. Et notez également que cette vision est valable sur à peu près tous les types d'activités, aussi bien marchandises générales que température dirigée, de manière un peu moins marquée sur le vrac. Vous le verrez dans les résultats qu'on aura l'occasion de vous diffuser à l'issue de ce webinaire de manière un peu plus détaillée. Mais on est quand même sur une vision assez, assez homogène. Voilà, continuons sur, toujours sur l'angle capacitaire avec ici une vision différenciée suivant les activités domestiques, international export et international import. Bon, sans grande surprise, effectivement, corollaire de la slide précédente, on voit clairement qu'aujourd'hui les ressources transport sont abondantes. Peu d'entreprises s'attendent aujourd'hui à rencontrer des difficultés pour capter de la capacité de transport routier. C'est vrai, particulièrement vrai sur le transport domestique, hein, vous le voyez, où à peu près 9 chargeurs sur 10 ne rencontrent pas de difficultés actuellement. Ils ne s'attendent pas pour 2024 à des difficultés notables. Même chose pour l'export et l'import, de manière un peu nuancée, mais on voit que globalement, et c'est un peu la lecture qu'on en a, que le ralentissement économique, finalement, il est généralisé à toute l'Europe.
Oui, c'est vraiment effectivement ce qui est confirmé dans des études menées par exemple par l'IRU, hein, l'Union internationale du transport routier, et puis Oplai, qui confirme que cette demande de transport en Europe, elle a été faible pendant toute l'année, liée à des baisses de consommation, de production, en particulier en Allemagne. Et donc pour 2024, bon, les perspectives sont une légère reprise. Avec un espoir de reprise un petit peu de la consommation suite aux hausses de salaire, à l'inflation qui se temporise quand même, et une baisse du chômage. Donc voilà, la demande de transport devrait reprendre un tout petit peu, mais on reste globalement sur ces notions-là. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que par rapport à la pénurie de conducteurs, qui est un souci traditionnel dans le transport routier depuis de nombreuses années, là, avec les baisses de demande de transport sur les deux dernières années, forcément, c'est un petit peu moins tendu. Bon, il ne faut pas perdre de vue le long terme néanmoins, en particulier sur des secteurs qui sont particulièrement tendus habituellement, comme la température dirigée.
Merci à tous les deux. Donc, comme nous avons pu le voir, hein, les volumes baissent, la capacité de transport reste, elle, très importante. Donc, voyons maintenant quel est l'impact sur la qualité de service.
Oui, alors la qualité de service, on l'aborde avec deux questions. La première concerne le taux de report et d'annulation au moment de la prise en charge de la marchandise. Alors forcément, la détente capacitaire s'accompagne d'une nette amélioration du taux de service de ce point de vue-là. Hein, c'est le taux de report annulation le plus faible depuis 2019. Et là encore, vous le voyez, y compris sur des secteurs traditionnellement avec un peu plus de difficultés comme la température dirigée. Ensuite, on pose une question où on se positionne à réception des marchandises. Est-ce que voilà, la qualité de service en termes on time in full est bien positionné. Alors, on distingue tout ce qui va être colis et groupage messagerie, où là, on est traditionnellement sur des systèmes relativement industrialisés, donc peu sensibles aux variations de conjoncture. Et ensuite, si on regarde le lot complet ou partiel via des commissionnaires ou en direct avec les transporteurs, ce qui est frappant cette année, c'est une amélioration quand même significative des cas où les entreprises travaillent avec des commissionnaires. C'est un niveau de qualité de service qui est habituellement plus bas que pour le travail en direct avec les transporteurs, sans doute pour de multiples raisons. Hein. Les commissionnaires ont peut-être tendance à tirer les prix un petit peu plus. Il y a un phénomène d'intermédiaire qui fait que peut-être la compréhension des attentes du client est un petit peu moins fine. Il y a peut-être un peu plus d'inertie lorsqu'on va gérer des problèmes opérationnels. Et donc là, on voit que cette année, sans doute, la qualité de service offerte par les commissionnaires de transport ça s'améliore et bénéficie de la détente capacitaire. Donc on voit clairement l'effet cette année. Donc, Xavier, je ne sais pas si tu veux commenter.
Non.
Très bien. Donc, du coup, passons maintenant à la question relative au prix du transport et comment cette situation se reflète donc sur les évolutions tarifaires proposées chaque année par les transporteurs.
Alors, sujet intéressant et important, les prix. Alors, on évoque ici un effet de tenaille. à la fois parce que je pense que vous le savez probablement tous, hein, aujourd'hui on est sur un marché qui est transport qui est fortement inflationniste. Donc des transporteurs qui doivent amortir leurs coûts fixes qui ont augmenté de manière très notable au cours de ces deux dernières années. Ce qu'on constate, hein, c'est que les chargeurs ont joué le jeu et ont accompagné leurs prestataires, y compris sur l'année 2023, hein, puisque vous voyez, on évoque le chiffre ici de 3,4% d'évolution moyenne des prix constatés, hors gazole évidemment, au cours des 12 derniers mois. C'est une vision pour la marchandise générale. Le constat est nuancé, on va dire, sur les autres activités, mais globalement, on constate également des tendances inflationnistes, évidemment, sur les autres marchés. Néanmoins, force est de constater que cette revalorisation a été moins importante que l'an passé. Alors, évidemment, on y voit le lien direct entre le rapport entre l'offre et la demande, hein, qui fait que finalement, entre ce que les chargeurs prévoyaient comme hausse et finalement ce qu'ils ont supporté, ben, il y a un effet bénéfique pour eux de l'ordre de 1%. Point complémentaire qu'on souhaitait évoquer, qui fait référence à une autre enquête que nous avons menée auprès de la communauté des transporteurs, cette fois-ci fin 2023. Quand on questionne les transporteurs sur combien ils souhaitent demander en termes de revalorisation tarifaire à leurs clients pour l'année 2024, la moyenne était de 3,8%, donc plutôt en lien avec les coûts de production constatés actuellement.
Alors en effet, on voit que l'offre et la demande jouent là, dans ce cas-là, avec une petite baisse de revalorisation tarifaire sur 2023. On peut souligner néanmoins que c'est quand même deux hausses significatives en 2022 et 2023 qui ont été négociées entre transporteurs et chargeurs, hors énergie, hein, toujours. On a constaté dans les réponses des résultats assez dispersés. Donc on y reviendra sans doute plus en détail dans le rapport complet. Mais on voit que c'est quand même des choses au cas par cas qu'il faut regarder dans le détail selon l'historique de la relation des entreprises entre elles. L'étude IRU mentionnait notamment un écart entre les prix spot qui était fortement tiré vers le bas du fait de la demande très réduite cette année, alors qu'à contrario, les prix contractualisés, eux, continuaient à augmenter sous la pression des coûts, puisque tous les postes de coûts ont augmenté ces dernières années. On sait bien que c'est quand même la tendance générale. Donc voilà, il faut regarder après si ces hausses accordées sont suffisantes. L'étude BP2R, du coup, sur les transporteurs, semble l'indiquer, hein, puisqu'on parle de 3,8% de revalorisation tarifaire, on n'est pas très loin là, des niveaux de 2023. Du côté du CNR, ils indiquaient des hausses de coûts un petit peu supérieures, hein, de l'ordre de 6% sur 2023 et quasiment 7% sur 2024, si on parle en grande moyenne pour des poids lourds, toutes spécialités confondues. Donc toujours la question, c'est il y a des hausses significatives qui sont passées. Est-ce que ça sera suffisant pour accompagner les transporteurs dans la durée? On ne sait pas encore.
Merci à tous les deux. Donc, effectivement, qui dit prix dit achat et donc forcément stratégie d'achat. Voyons comment les chargeurs se positionnent donc sur cette question.
Alors, effectivement, le premier point, c'est de voir quelle est la situation financière des transporteurs. Globalement, les échanges entre les chargeurs et leurs prestataires permettent de faire connaître les difficultés et on verra un petit peu après que les chargeurs à la fois conservent une diversité de leur panel et essayent de le consolider pour prévenir les risques opérationnels. Alors vous voyez là, sur la situation en 2023, que c'est quand même l'année avec une dégradation de la situation perçue des transporteurs qui est pire que 2020. L'année Covid, donc c'est pas de bon augure. On peut s'interroger sur les 40% en orange là, de répondants qui pensent malgré tout que la situation financière des transporteurs est bonne. On peut l'expliquer de différentes façons, hein. Ça peut refléter une diversité d'acteurs puisqu'il y a des petites et des grandes entreprises du côté transporteur et du côté chargeur. Donc effectivement, si on est un petit qui a dû concéder des grosses augmentations tarifaires, on peut penser que son grand transporteur est en bonne situation. On peut se trouver dans la situation inverse, évidemment. Il y a des questions de rapport de force, peut-être. Puis, comme je vous le disais tout à l'heure, les revalorisations tarifaires ont été assez dispersées. Donc, sans doute, certains chargeurs ont été amenés à accorder des hausses tarifaires quand même très significatives, soit contraints, soit pour accompagner les transporteurs, justement, dans les besoins d'investissement. Voilà. Après, la dernière hypothèse, c'est aussi que peut-être certains chargeurs méconnaissent les niveaux de marge et de coûts des transporteurs et considèrent qu'avec des hausses moyennes qui ont été passées, les transporteurs doivent bien s'en sortir. Donc, en tout cas, ce qu'on peut recommander, c'est de continuer à être vigilant sur l'évolution de la situation financière de ces prestataires, eu égard au devoir de vigilance des donneurs d'ordre.
Alors, tu évoques, Valérie, effectivement un sujet important, le sujet des marges. Gardons en tête hein, quand même qu'on est sur un métier où les marges sont globalement faibles. Hein, on parle pour la profession de marge de l'ordre de 1%. Alors évidemment, variable en fonction des métiers de niche, des activités, mais on est sur une profession où les niveaux de marge restent faibles. Et puis gardons aussi en tête qu'on est dans une profession qui va devoir dans les années à venir accompagner ses clients chargeurs dans des logiques d'investissement à la fois pour faciliter la transition bas carbone, hein, donc sur des solutions décarbonées, on évoquera ce sujet un peu plus tard, mais aussi sur des solutions plus digitalisées. Donc on sait qu'on est sur une profession qui a besoin d'investir pour se transformer. Alors, continuons avec toujours la vision sur le panel transporteur avec le nombre d'acteurs. Ce qui est intéressant, c'est que vous le voyez hein, de manière assez générale, quand on questionne les chargeurs, sur l'évolution du nombre de leurs transporteurs routiers, on a été en 2021 et 2022 plutôt dans des stratégies d'augmentation des panels. Pour faire face notamment aux tensions capacitaires. Donc, un grand nombre de chargeurs ont dû aller identifier des solutions nouvelles parce que leur prestataire historique n'était pas forcément en capacité d'adresser 100% de leur volume. Cette tendance, elle est un peu, on va dire, terminée. C'est ce qu'on voit clairement dans l'année 2023 hein, où on est plutôt dans une posture où les chargeurs ont préféré consolider, renforcer leur partenariat avec leurs partenaires actuels. Pour 2024, vous le voyez, la perspective est relativement similaire. Alors, on y voit plutôt un bon signal pour le marché, hein, avec une certaine forme de ralliement stratégique entre les parties. Hein, donc, on est vraiment dans la logique de construction partenariale. Voilà. Et puis, ça veut dire aussi le corollaire de ça que les pratiques offensives pour les transporteurs pour gagner des marchés, vont devenir aujourd'hui certainement plus délicates.
Oui, c'est plutôt ça hein, comme attitude de chercher à pérenniser la relation dans une situation comme celle-ci, comme tu disais, pour accompagner les challenges de la transition écologique. Et puis aussi pour ne pas perdre de vue qu'il y a besoin de sécuriser les moyens de transport dans le cas de nouvelles crises qui pourraient nous arriver. C'est somme toute quelque chose d'assez logique aussi dans un marché détendu. Les prestataires traditionnels des chargeurs savent répondre à la demande avec une bonne qualité de service, on l'a vu. Donc, il n'y a pas réellement la nécessité d'aller chercher ailleurs de la capacité.
Alors, on a parlé de quantité d'acteurs. Maintenant, parlons plutôt de profil. Donc, là, on oppose la notion de transporteur routier versus transporteur non résident, donc hors pavillon français. Un peu dans le même esprit, hein, on voit que 2021 et 2022 ont été des années où les chargeurs ont plutôt cherché à augmenter la part de l'activité, du volume d'activité confié à leurs transporteurs français. On voit qu'aujourd'hui, cette tendance, elle continue de manière un peu moins marquée. On peut penser que l'avantage prix dont pouvaient bénéficier finalement les transporteurs non résidents, aujourd'hui, il semble s'estomper. Et puis, vous voyez que pour 2024, les prévisions sont sensiblement identiques à l'année 2023. Donc, plutôt un marché où on est un peu dans le consensus, avec toujours une tendance à promouvoir les transporteurs français, mais de manière assez légère.
Alors, on continue avec les critères de sélection des transporteurs. Alors, vous voyez sur ce graphe avec beaucoup de lignes, on garde dans le trio de tête les tarifs, la qualité de service et l'engagement capacitaire, donc, qui sont vraiment les premiers critères de sélection des transporteurs routiers. Alors, ça reste le trio de tête, c'est logique, ce sont les basiques, mais on voit néanmoins avec les petites courbes qui chutent vers le bas, que ça perd en importance relative, ce qui est encore une fois logique dans un contexte de détente du marché. Là où on voit une évolution vraiment intéressante, c'est la courbe verte qui indique dans quelle mesure la politique RSE des transporteurs va être un critère de sélection. On voit que depuis 2017, alors depuis 2018, devrais-je dire, ça continue de croître régulièrement. Et un corollaire qui est un petit peu étonnant cette année, c'est on voit la courbe en violet étendue de l'offre de services qui bondit littéralement entre 2022 et 2023. Ce qu'on s'est dit en regardant ces résultats, c'est que probablement quand les répondants ont coché cette case, ils entendaient par étendue de l'offre de services une sorte de variété de motorisation, de différentes possibilités de verdir les transports, y compris peut-être le report modal aussi, hein, qui était offert par leur prestataire de transport. À noter, c'est quelque chose qu'on a constaté dans un autre baromètre que l'AUTF a présenté la semaine dernière au SITL, autour des interlocuteurs, des téléchargeurs offerts du report modal. Ferroviaire ou fluvial, les transporteurs routiers prennent une part de plus en plus importante, donc c'est un petit peu logique de voir ce résultat ici aujourd'hui. Ensuite, on a trois derniers critères qui sont la solidité financière, la politique sécurité, sûreté, hygiène et puis la politique d'innovation. Bon, on imagine que par innovation, là, les répondants ont pensé plutôt innovation digitale. Et vous voyez que ces trois critères-là perdent en importance relative. Alors on peut s'interroger, est-ce qu'il s'agit de critères qui ne sont plus des critères de sélection, mais des critères qualifiants, des sortes de prérequis pour avoir recours à un transporteur donné? Ou est-ce qu'au contraire, les chargeurs sont préoccupés par d'autres choses et mettre un petit peu ces sujets-là en sommeil? Donc là encore, il faut être vigilant, hein, si jamais c'est cette dernière option, la situation financière des transporteurs n'est pas forcément idyllique et dans des périodes de faible activité, la rentabilité peut être particulièrement fragile, donc il faut vraiment le suivre en tant que donneur d'ordre. Puis je voulais pointer aussi le sujet un peu sécurité, sûreté, hygiène, les conditions de travail, les conditions de sécurité, de formation, etc. sont vraiment des éléments très importants pour l'attractivité des métiers de conducteurs en particulier. Donc, savoir comment ces prestataires traitent leurs salariés, c'est important. Le donneur d'ordre a tout à fait sa place pour justement travailler aussi sur l'attractivité de ces métiers et pallier la pénurie de conducteurs. Donc, c'est des points à suivre de près.
Oui, alors je pense, comme tu le disais, Valérie, que les sujets de sécurité, sûreté, de solidité financière sont pas absents des processus de décision et de sélection des chargeurs. Ils perdent un peu en importance relative par rapport effectivement à l'RSE, comme tu le disais, et puis à l'étendue de l'offre de services qui ont vraiment progressé de manière très notable ces dernières années. Pour autant, je pense qu'effectivement, comme tu le disais, vraiment, ça reste des prérequis hein, aujourd'hui. Et évidemment, voilà, ça fait partie des basiques que les chargeurs attendent de leurs prestataires en matière de prestations de transport.
Merci à tous les deux. Enfin, pour finir, nous avons donc questionné notre panel sur des sujets d'actualité, tels que leurs enjeux du moment, la préparation aux Jeux Olympiques de Paris, bien évidemment, et leur implication autour du thème de la décarbonation.
Alors, parlons d'enjeux prioritaires pour commencer. Vous voyez ici, finalement, les cinq enjeux prioritaires sur lesquels nous avons questionné, donc la qualité de service, les coûts, la résilience, la RSE et la transformation digitale. L'ordre d'importance de ces enjeux reste globalement le même d'une année sur l'autre. Pour autant, on voit qu'il y a une poussée relativement importante au niveau de l'enjeu coût. Alors évidemment, ça fait le lien direct avec la très forte tendance inflationniste de ces trois dernières années, hein, qui remet le sujet sur le devant de la scène. On voit que la résilience et l'agilité sont en forte baisse. Alors, ça fait, selon nous, écho voilà, à la fin du cycle Covid. Pour autant, ce sujet nous paraît relativement étonnant puisque on reste quand même dans une certaine incertitude ambiante. On voit également que la transformation digitale est à nouveau priorisée, alors de manière relative évidemment par rapport aux autres enjeux, mais on voit qu'elle est cet enjeu de transformation est rattrapé par la nécessité de combler son retard en termes de maturité digitale. On est sur une profession qui est relativement peu mature d'un point de vue digital par rapport aux autres pans de la supply chain et donc qui doit accélérer sa transformation. Et puis, en lien évidemment avec tout ce qu'on a pu voir dans les diapositives précédentes, on voit que la RSE continue sa progression incessante depuis 2021. Donc, c'est plutôt de bon augure. Pour autant, il y a urgence à agir. Donc, on s'en félicite.
Oui, alors sur les coûts, hein, on voit que ça reste une constante de la préoccupation des chargeurs, même s'il y a un peu de détente actuellement. Les chargeurs font quand même face depuis 2 ans à une conjoncture économique problématique dans presque tous les secteurs d'activité. Donc la maîtrise des coûts, ça reste vraiment une priorité, notamment suite à la forte inflation qu'on a connue depuis 2 ans. Comme toi, je m'étonne un petit peu de ce résultat sur la résilience et l'agilité. Alors certes, le marché est surcapacitaire, mais on peut se dire que les chargeurs pensent qu'en cas de crise, ils auraient moins de problèmes à trouver réponse à leurs demandes. On peut se demander malgré tout jusqu'à quand ce marché surcapacitaire va demeurer. Est-ce que les transporteurs ne vont pas être amenés à ajuster quand même leurs moyens, leur flotte dans les temps qui viennent. Et évidemment, il ne faut pas perdre de vue le fait que les crises se succèdent. Maintenant, on doit s'habituer à ce monde VUCA qui nous met à l'épreuve très régulièrement. J'ajouterais sur la partie, je parlais de la pénurie de chauffeurs tout à l'heure, donc c'est un petit peu plus détendu en ce moment, mais le problème de fond clairement n'est pas résolu, hein. L'IRU prévoit que d'ici 2028, il y a à peu près 15% des conducteurs actuels qui partent en retraite, ce qui mènerait le nombre de postes non pourvus en 2028, alors combiné à une hausse, une reprise, on va dire, de la demande de transport autour de 745 000 conducteurs manquants au niveau européen pour à peu près 230 000 aujourd'hui. Donc, simplement pour vous indiquer que ce sujet reste très, très prégnant et qu'il faut vraiment, en tant que chargeur aussi, pouvoir mettre, faire tout ce qu'on peut pour attirer les conducteurs.
Alors, regardons maintenant les leviers hein, qui vont permettre aux chargeurs d'adresser les enjeux que nous venons de présenter. Alors, vous voyez, la slide est très riche. On va mettre l'accent sur 3 points en particulier qui nous paraissent importants de relever. Alors, le renforcement de la relation avec les transporteurs actuels, qui reste d'une année sur l'autre extrêmement plébiscité, puisque vous le voyez, 81% des chargeurs en font leur priorité, de manière encore plus marquée que l'année précédente. Dans les autres faits notables, on voit une très nette progression des logiques de benchmark, au travers notamment d'appels d'offres, donc qui fait, je pense, pas mal le lien avec le fait que ces 2 dernières années, les démarches d'appels d'offres ont pas mal été temporisées. Intéressant de noter pour autant que seulement 27% de ces chargeurs envisagent d'accroître leur sourcing. Donc, on est plutôt dans une logique de benchmark des solutions existantes au travers de démarches d'appel d'offres sans forcément vouloir aller injecter du sang neuf. Et puis, troisième point qui nous paraissait important, c'est le recours à des véhicules en énergie alternative qui poursuit son ascension. Alors, évidemment, toujours en lien avec l'importance croissante de la RSE et de la décarbonation.
Oui, on voit toujours ces constantes. On a parlé de du souhait de consolider les relations avec les transporteurs existants. Donc, ça va avec ce que tu dis, une baisse de la volonté d'accroître le sourcing, même si, en effet, clairement, le marché est favorable aux appels d'offres et dans la mesure où les chargeurs ont aussi besoin de compenser des périodes de surcoût. Voilà, c'est une période où il y a plus d'appels d'offres. Encore une fois, il ne faut pas perdre de vue le long terme. On remarque donc la poussée des sujets RSE, c'est-à-dire que même en situation de détente capacitaire, on voit que les chargeurs sont préoccupés par le taux de remplissage des véhicules, ils sont prêts à regarder la réduction des fréquences de livraison. Donc ça, on entend bien que c'est plutôt pour des objectifs de réduire les impacts environnementaux du transport. Et puis, à contrario, on remarque sur divers leviers, par exemple celui de la gestion des stocks, qui varie un petit peu au gré de la conjoncture. Hein. En ce moment, on sait que les stocks sont toujours un sujet difficile à gérer car source de coûts pour les entreprises. Donc là, on est vraiment dans une période d'optimisation et on sait qu'on arrivera à trouver de la capacité sur le marché pour répondre à des aléas. Donc, on est moins dans une tendance où on va essayer d'augmenter les stocks pour réduire la pression sur le transport. Ça peut être un petit peu dommage à long terme, mais là aussi... Il faut concilier la fin du mois et la fin du monde. Alors, parmi les crises qui nous attendent cette année, ce n'est pas une crise en réalité, mais c'est vrai que les Jeux Olympiques vont être un facteur quand même très perturbant pour beaucoup d'entreprises. On a posé deux questions très simples, savoir si les flux routiers de l'entreprise seraient potentiellement affectés par la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc, vous voyez qu'à plus de deux tiers des répondants, c'est oui. Et ensuite, on a demandé si c'était un impact bien anticipé par les entreprises. Alors, en grande majorité, là aussi, vous voyez les deux tiers de répondants qui soit ont pris en compte les contraintes et ont prévu de bien s'organiser, soit ont pris en compte les contraintes et seront prêts dans les temps. On voit aussi qu'il y a un tiers de répondants qui n'est pas encore organisé. Alors, pour mémoire, hein, c'est la préfecture de police de Paris qui met en place tous les dispositifs de restriction de circulation avec vraiment un double objectif de limiter le risque de sécurité, enfin le risque d'attentat, pardon, donc dans un objectif de sécurité d'une part, et puis de limiter la congestion. C'est vraiment très particulier puisque il y a un certain nombre d'événements qui vont se passer hors stade, et y compris, on parle de JO, mais il y a les Paralympiques également qui vont se situer sur la fin de l'été, début septembre, donc pendant la rentrée, avec une problématique de concilier la reprise de l'activité économique avec les contraintes liées au JO. Donc c'est vraiment un sujet à prendre en compte, c'est assez complexe puisque les communications de la préfecture de police ont été un petit peu tardives, on commence à savoir beaucoup plus de choses maintenant, notamment au travers d'un groupe de travail qui s'appelle l'UJOP, pour logistique urbaine du quotidien pendant les JOP, auquel la UTF contribue et qui permet d'en savoir plus sur les décisions, les contraintes qui vont peut-être arriver, quelles seront les façons d'obtenir des dérogations, des laissez-passer par QR code, etc. Donc si vous ne savez pas encore si vos flux sont concernés par les JO ou vous n'avez pas encore pris le temps de regarder le sujet, il reste quelques mois, c'est vraiment important parce que c'est assez chronophage et impliquant pour les entreprises. Ça va demander beaucoup de réactivité. Je crois qu'on peut continuer. Et pour terminer, sur dernière question d'actualité, sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, on a voulu... avoir un petit peu de feedback sur les objectifs vraiment de réduction liés au transport qui étaient pris dans les entreprises. Et là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. On voit quasiment 80% des répondants ont des objectifs vraiment liés au transport fixés par leur entreprise et une grande majorité d'entre eux, à peu près deux tiers, pensent les atteindre. Alors, peut-être, vous connaissez le dispositif FRED21 dont la UTF est porteur associé, donc qui accompagne les entreprises pour la décarbonation de leur flux. On a à peu près 450 entreprises engagées et aujourd'hui, elles ont un objectif moyen de 10% de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur 3 ans. Alors, c'est à la fois ambitieux puisque... l'objectif minimum dans le cadre de FRED21, c'est de 5% de réduction. Néanmoins, par rapport à l'urgence climatique et environnementale, on peut se demander si c'est suffisant, enfin si cette ambition-là est suffisante par rapport à ce qu'on devrait pouvoir atteindre. En tout cas, au travers de la deuxième question, on voit que les chargeurs sont quand même volontaires pour accompagner les transporteurs. On a cessé de le dire depuis le début de ce webinaire, hein, il faut un accompagnement des chargeurs. Et on a posé donc plusieurs questions. Vous voyez que donc les chargeurs sont prêts à plus de 70% à signer des contrats plus longs, à accepter des hausses tarifaires pour introduire des solutions de transport décarbonées dans leur plan de transport. Également, une solution qui est visée de façon importante, hein, plus de la moitié des chargeurs, 53%, est prêt à remettre en cause ses habitudes, donc en faisant des concessions sur les temps de transport, sur les fréquences de livraison. Alors, la moitié, c'est à la fois ambitieux. On peut se demander, ceux qui ne pensent pas faire de concessions sur ces aspects-là, est-ce que notamment c'est parce qu'ils pensent que les négociations avec leurs clients destinataires, par exemple, seront trop difficiles ? Et on a même poussé plus loin les questions en demandant si les entreprises seraient prêtes à participer directement aux investissements nécessaires pour cette décarbonation. Et vous voyez qu'il y a quand même un tiers des industriels ou des chargeurs qui ont répondu, qui se disent prêts à le faire. Donc c'est quand même très significatif puisque c'est quelque chose de très engageant pour les entreprises, bien sûr.
Alors, on le voit effectivement, Valérie, des très belles intentions des chargeurs. Pour autant, je pense, de mon point de vue, au début de l'histoire en termes de décarbonation, hein, puisqu'il reste beaucoup à faire. Intéressant de souligner effectivement le dispositif RED 21, hein, qui est un dispositif de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui existe depuis 2019, pardon, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il y a un dispositif qui a pour vocation à accompagner, à aider les chargeurs, donc industriels, distributeurs, coopératives, à s'engager dans un programme de réduction volontaire de leurs émissions de gaz à effet de serre liées au transport, hein, sur un plan triennal, et qui est une bonne façon finalement de s'engager dans la démarche, hein, quand on a un niveau de maturité qui est faible. Donc, je vous invite à vous renseigner sur ce dispositif et à vous engager si vous n'y êtes pas déjà.
Merci Valérie, merci Xavier. Donc, pour conclure, hein, cette enquête menée en ce début d'année, et si sans surprise, le transport routier de marchandises est une fois de plus malmené par une volumétrie en baisse. Parce que c'est un constat effectivement qui avait été fait déjà l'année dernière, qui est encore existant cette année et qui risque de perdurer. Et effectivement, des tarifs qui continuent à augmenter. Mais cela dit, on voit que la surcapacité côté transporteur limite légèrement cette hausse. Effectivement, les transporteurs cherchent principalement à placer leurs moyens. Donc, en dehors des aspects tarifaires, les chargeurs veulent avant tout consolider les relations avec les transporteurs et s'intéressent également à d'autres enjeux. On en a parlé, hein, la réduction des émissions de CO2, comme on vient de voir, hein, ou encore un point qui est très important depuis longtemps maintenant, la qualité de service et l'étendue de l'offre de services proposée par le transporteur. On souligne ici effectivement que les résultats que l'on constate sur cette enquête sont vraiment le miroir des résultats de l'enquête transporteur que l'on a menée en fin d'année dernière. Je pense que ça a été dit par Xavier sur l'une des questions, mais on le retrouve vraiment à travers quasi l'intégralité des questions qui ont été posées. Voilà, enquête très intéressante et hâte donc d'avoir les résultats de l'enquête de l'année prochaine. On vous propose maintenant, donc avec Valérie et Xavier, de vous faire une petite présentation des activités AUTF et BP2R Part of PwC Network, et on passera ensuite aux questions-réponses.
Oui, merci. Alors, très brièvement, donc l'AUTF, je l'ai dit rapidement au début, c'est l'organisation professionnelle qui représente les chargeurs, donc des industriels, des distributeurs, qui peuvent être des entreprises, mais aussi des fédérations professionnelles dans tous les secteurs d'activité. Nous avons à peu près 170 adhérents. Et donc, notre fil rouge, c'est le transport sur l'ensemble des modes, hein, que ce soit transport terrestre, transport international, maritime, aérien, etc. Notre travail, c'est de de représenter les intérêts des chargeurs vis-à-vis des pouvoirs publics et de l'ensemble des parties prenantes qui vont être les gestionnaires d'infrastructures, les fédérations de transporteurs routiers, ferroviaires, les armateurs maritimes, etc. Et donc, on fait une veille sur l'ensemble des enjeux de transport qui sont très nombreux et très présents dans l'actualité aujourd'hui, qu'il s'agisse de la transition écologique, on en a parlé plusieurs fois, des aspects de marché, des webinaires comme celui-ci aujourd'hui, toute la question de l'innovation, la digitalisation, l'innovation technique, les enjeux sociaux ou de ressources humaines également. Puis plus globalement, évidemment, les questions de compétitivité. Le transport est un mode de très, enfin, des métiers très encadrés, donc on fait une veille réglementaire également sur toutes les évolutions liées à divers sujets. Un point important, donc on a mentionné FRED 21, l'AUTF est porteur associé de deux programmes C2E donc qui visent à accompagner les entreprises dans la décarbonation, donc soit FRED 21, directement avec ses plans d'action qui vont accompagner les chargeurs sur diverses actions, soit le programme REMOVE également, donc deux projets coportés par l'AUTF auprès de l'ADEME notamment, REMOVE ayant pour objectif plus précis d'aider au report modal vers les modes massifiés. N'hésitez pas à venir vous renseigner sur ce que fait l'AUTF ou nous contacter si besoin.
Merci Valérie.
Et rapidement, donc, quelques mots sur BP2R. Donc, je l'ai dit, un cabinet de conseil spécialiste en optimisation du transport. On considère que le transport peut être un moteur de différenciation et de compétitivité. Donc, notre métier, c'est d'accompagner des industriels, des distributeurs, des coopératives, des transporteurs logisticiens, à la fois optimiser les coûts, améliorer la satisfaction client et puis à réduire l'empreinte carbone du transport. Et je l'ai dit, donc, BP2R a rejoint le réseau mondial PwC en été dernier.
Très bien, merci à tous les deux pour cette présentation. Alors, je vous propose maintenant de passer aux questions-réponses qui apparaissent chez nous et donc on va tâcher d'y répondre ensemble. Par ailleurs, vous verrez un petit questionnaire apparaître sur votre fenêtre également. N'hésitez pas à répondre aux petites questions qui vous sont posées. Donc, nous allons commencer avec une première question. Pour Valérie, pourquoi donc existe-t-il aujourd'hui quasi aucun index de prix sur l'évolution du prix de l'intermodal rail route ? Valérie, as-tu une réponse à cette question ?
Alors, je peux avoir des pistes de réponse. Alors, tout ce qui est transport massifié intermodal, on est beaucoup moins dans des solutions standards. Donc, effectivement, selon le type de flux sur lequel on se situe, la structure de coût va être différente selon l'importance du pré et post-acheminement, selon les caractéristiques de l'entreprise ferroviaire, si on est en rail-route par exemple, qui va faire la traction, la façon dont elle achète son énergie. Il y a beaucoup moins de choses standards sur le coût de l'intermodal. Néanmoins, je l'ai mentionné tout à l'heure, la UTF travaille sur des baromètres aussi sur le ferroviaire et sur le fluvial. C'est tout à fait des questions qu'on pourrait plus intégrer à l'avenir.
Très bien, merci Valérie. Une question maintenant côté émissions de CO2, peut-être Xavier et même Valérie. Pourquoi donc les transporteurs sont-ils toujours aussi lents à être en mesure de communiquer les émissions de CO2 liées au transport confié ?
Ah, excellente question. Alors, effectivement, c'est une obligation depuis un grand nombre d'années. J'ai plus l'année en tête, mais ça fait longtemps que les transporteurs sont dans l'obligation de devoir remonter l'empreinte carbone de des opérations de transport réalisées pour le compte de leurs clients chargeurs en lien avec la facture. Dans les faits, effectivement, on voit que ce n'est pas toujours le cas. Alors, je ne pense pas que ce soit systématiquement un problème des transporteurs, parce que je pense que beaucoup d'entre eux aujourd'hui sont équipés pour calculer les émissions de carbone. Je pense que le point, il est surtout dans le fait qu'aujourd'hui, cette information, elle a peu et voire pas été utilisée par les chargeurs. Et que forcément, il n'y avait pas forcément de sollicitation de leur part. On voit que les choses sont en train de se changer. De plus en plus de chargeurs s'interrogent évidemment sur leurs émissions de carbone liées aux opérations de transport et donc cherchent à mesurer d'une façon ou d'une autre. Et donc, une façon, c'est de récupérer les émissions calculées par les transporteurs. C'est une façon, ce n'est pas la seule, puisque la difficulté, c'est que la mesure des émissions réalisées par les transporteurs, elle est peu homogène. Pas forcément facile quand on est chargeur d'en faire quelque chose. Et une autre façon de faire, c'est de, quand on est positionné côté chargeur, bah, c'est de mesurer soi-même ses émissions au travers de ses propres outils ou d'outils du marché qui permettent de le faire, hein, qui permettent d'avoir une mesure plutôt homogène. Donc voilà, pour répondre à la question, je pense que c'est voilà, beaucoup de, voire la majorité des transporteurs sont en mesure de le faire. Il suffit, entre guillemets, de les solliciter, les amener à vous produire cette donnée. Je ne sais pas si Valérie, tu veux compléter.
Non, je pense que c'est déjà très, très complet. En effet, c'est une obligation qui est ancienne. Alors, je n'ai pas non plus en tête la date, l'année, mais ce n'était pas sanctionné. Et c'est vrai que c'est le fait d'afficher les émissions CO2 liées au transport, ça met en jeu beaucoup de modifications dans les systèmes d'information. Ça peut être assez lourd. Et sur quelque chose qui n'était pas sanctionné, pas encore dans les mœurs, voilà, on voit que ça a mis du temps à se mettre en place. Donc, après, il y a peut-être aussi une petite partie de difficulté de réticence à travailler à livre ouvert. Il y a toujours une ambiguïté dans la transparence, dans les échanges avec les transporteurs sur la part que représente l'énergie dans les coûts, puisque bah, si on parle en émissions de CO2, on parle aussi de coûts, et donc on travaille avec à livre ouvert. Ce n'est pas toujours le souhait de toutes les entreprises, même si on est censé avoir des indexations, etc.
Merci. Donc, une autre question qui peut revenir tous les ans, hein, pour le coup, parce que tous les ans, au mois de mai, on a la grande problématique du transport. Et donc, on se demande effectivement sur la semaine 19, là, cette année, qui risque d'être très compliquée, est-ce qu'on a des nouvelles sur une levée d'interdiction de circuler du 8 au 9 mai ?
Alors, je vais répondre. C'est un sujet qui nous occupe depuis, je pense, l'été dernier. En effet, on a plusieurs adhérents qui nous avaient sollicité pour dire 2 jours fériés consécutifs, ça va être très compliqué, en particulier en période de préparation, de montée en stock, en vue des JO, etc. Alors récemment, le texte n'est pas encore paru, mais le ministère des Transports, au travers de la DGTM, nous a indiqué qu'en effet, il y aurait une levée générale d'interdiction de circuler le 9 mai, le jeudi de l'Ascension. Et voilà, j'ai relancé hier, on n'a pas encore le texte, mais ça devrait arriver dans les jours qui viennent, j'espère.
Très bien. Une question maintenant côté rachat de PME. Effectivement, on voit de plus en plus de rachats de PME avec pour conséquence une concentration de l'offre. Quels sont les risques et les impacts pour les industriels ? Xavier, as-tu une réponse à apporter ?
Alors oui, c'est plutôt une tendance ces dernières années, derniers mois, on voit des rachats assez réguliers de structures par d'autres structures parfois plus grandes, parfois plus petites. Gardons en tête qu'on est quand même sur un marché du transport qui est extrêmement atomisé, hein, plus de 40 000 entreprises de transport en France, plus près de 600 000 en Europe. Donc on est loin d'un marché très, très, très concentré. Hein. Donc de ce point de vue-là, même s'il y a un mouvement de fond de concentration, je pense que les impacts pour les industriels ils ne sont pas négatifs. Au contraire, hein, j'y vois plutôt une opportunité hein, de pouvoir pour des structures consolider des savoir-faire, accélérer des investissements pour pouvoir répondre à ce besoin croissant des chargeurs, de proposer des solutions différenciées, nouvelles, notamment en termes de décarbonation, en termes de digitalisation. On voit d'ailleurs que le sujet de Valérie l'a évoqué tout à l'heure, l'importance de la variété de l'offre des services proposés par les transporteurs, ça devient un élément déterminant aujourd'hui pour les chargeurs. Et donc, cette concentration, en tout cas, c'est la lecture que j'en ai, va permettre d'accélérer ces éléments-là.
Oui, je pense qu'il faut vraiment que les chargeurs soutiennent aussi ces petits transporteurs ou même ceux qui se regroupent pour conserver justement cette diversité de l'offre, la réactivité sur le service et voilà, garder des négociations équilibrées.
Très bien. Pour rester un peu dans l'empreinte carbone, on a une question également. Est-ce que les chargeurs seraient en mesure d'imposer à leurs transporteurs de communiquer leur empreinte CO2 réelle et non une empreinte calculée via des outils comme EcoTransit ou Siteness?
Alors, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, la législation ne le prévoit pas. Alors, je pense qu'on va vers un marché qui va se standardiser, normaliser dans les prochaines années. Je l'ai évoqué, mais bon, il y a un enjeu très fort aujourd'hui à mesurer cette empreinte carbone CO2. Il existe aujourd'hui effectivement un certain nombre d'outils hein, disponibles sur le marché qui permettent effectivement d'aller plutôt vers des standards. Alors, imposés aujourd'hui par un certain nombre de dispositif, alors le dispositif GLEC hein, qui s'est transposé dans une norme ISO très récemment, hein, puisque ça date de 2023. Donc on voit que le cadre aujourd'hui il est en train de se structurer. Il y a des outils qui existent. Hein, voilà, donc je ne peux que vous inviter, côté chargeur, à vous renseigner sur le marché et puis voir dans quelle mesure, effectivement, vous avez la possibilité de vous appuyer sur ce genre de dispositifs et d'outils pour standardiser votre mesure de l'empreinte carbone CO2 et puis peut-être en lien, en discuter de manière assez étroite avec vos transporteurs pour voir dans quelle mesure ils peuvent vous aider à converger vers ces standards.
Très bien. Toujours dans la même thématique, on voit que cette thématique intéresse énormément aujourd'hui. Quant à l'obligation des transporteurs à fournir de la data sur les émissions de CO2, est-elle limitée à l'incoterme, donc du coup liée au chargeur et à l'expéditeur payeur, ou peut-on l'exiger également si une expédition est réalisée eh bien, un autre incoterme type FCA, donc du coup côté destinataire par exemple?
Je pense qu'il y a différents aspects. Déjà, il faut voir si on est en droit français ou en droit européen d'un autre pays. Je reconnais que je n'ai pas en tête les obligations éventuelles sur des législations, d'autres législations européennes ou dans d'autres pays d'obligation d'affichage des émissions CO2 des transporteurs. Ensuite, dans la relation contractuelle, effectivement, qu'on soit expéditeur ou destinataire, il y a un lien entre les trois. Je pense que quoi qu'il en soit, une entreprise qui souhaite avoir des informations, quels que soient les incoterms, hein, qui souhaite avoir des informations sur les flux de transport, si on est le client, si on demande à son fournisseur, je ne vois pas pour quelle raison on n'aurait pas l'information. C'est plutôt de nature à faciliter la mise en place de solutions décarbonées pour celui qui organise le transport. Donc, je ne sais pas vous faire une réponse réglementaire, mais je pense que dans la pratique de dialogue entre les différentes parties prenantes, ça ne me semble pas un problème.
Très bien. Toujours sur ces thèmes-là, on voit qu'effectivement, il y a différentes manières de calculer les émissions de CO2. N'y a-t-il pas un moyen d'être formé et de se baser sur une seule et même méthodologie ?
Alors, les méthodologies, elles existent hein, depuis longtemps. En France, il y a un certain nombre de standards hein, qui ont été construits par l'ADEME. Aujourd'hui, on a le dispositif du GLEC au niveau de l'Europe qui prévoit aussi une méthodologie très cadrée sur le calcul des émissions de gaz à effet de serre liées au transport. Donc, les choses existent. Hein. Après, c'est le diable se niche dans le détail, donc on est surtout dans la façon dont on interprète ces méthodologies et on les met en œuvre au quotidien. On voit que ce n'est pas toujours évident parce que derrière la méthodologie, c'est surtout comment on dispose de données métiers qui permettent de faire un calcul d'émissions de gaz à effet de serre qui soit solide, homogène, comparable dans le temps. Hein, c'est surtout là que se situe l'enjeu. N'oublions pas aussi qu'on n'est pas sur... des activités qui nécessitent d'être extrêmement précis dans le calcul. Ce n'est pas la finalité. L'idée, ce n'est pas d'être au gramme près de CO2 quand on fait des mesures d'empreinte carbone transport, mais plutôt d'avoir quelque chose qui soit cohérent dans le temps, représentatif de la réalité, sur lequel on peut identifier les bons leviers et puis agir. Parce que finalement, in fine, la mesure du carbone ne sert qu'à se mettre en action. Donc, je pense que de ce point de vue-là, le marché est quand même déjà plutôt pas mal cadré.
Alors, néanmoins, il y a des projets en cours au niveau européen et la France s'est portée pilote, notamment pour travailler sur un système de plateforme de gestion de données qui permettent de remonter des données opérationnelles de transport et calculer les émissions de gaz à effet de serre associées. Donc, je sais que c'est un projet qui est en train de se lancer avec le ministère des Transports. Donc sans doute qu'à l'avenir, il y a une ambition d'aller vers ça, malgré tout, d'avoir à la fois des calculs d'émissions qui se rapprochent de l'opération, du réel opérationnel, et puis une volonté d'harmoniser les calculs encore plus.
Très bien. Passons maintenant à une question plutôt achat, panel de transporteurs. A-t-on une tendance à savoir si les chargeurs préfèrent avoir plus ou moins de partenaires transport?
Alors, on a évoqué ce sujet assez rapidement du panel de transporteurs et notamment en termes de quantité d'acteurs. Alors, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est une vision assez générale du marché. On le voit, hein, j'ai les chiffres sous les yeux, 58% des chargeurs aujourd'hui sont plutôt dans une logique de maintenir le nombre d'acteurs, 24% à contrario sont plutôt dans une logique d'augmenter leur panel et 18% à contrario à baisser leur panel. Donc, on voit que les stratégies aujourd'hui sont relativement variées. Ça dépend des activités, des marchés. Donc, il n'y a pas de règles toutes faites. On est quand même, malgré tout, de manière globale, quand on regarde ces chiffres, dans une tendance à légèrement augmenter le nombre d'acteurs pour accompagner notamment sur des sujets. Alors, pas pour faire face à des défis capacitaires, puisqu'on l'a vu, hein, c'était plutôt l'apanage des années post-Covid. Aujourd'hui, ces enjeux d'augmentation de transporteurs, ils sont plutôt liés à la nécessité finalement d'identifier des solutions nouvelles, notamment en termes de solutions décarbonées, et puis de solutions nouvelles en termes d'offres des services. Hein. C'est plutôt comme ça que je lis le marché aujourd'hui.
Très bien. Enfin, une dernière question, plutôt côté transporteur, hein, pour le coup. On a entendu parler effectivement fin 2023 de la fin de l'obligation de retour du camion dans son état d'origine. Qu'en est-il réellement? Quels sont les impacts, notamment sur le marché français? Valérie, as-tu quelques éléments de réponse?
Alors, en effet, c'était une des mesures du paquet mobilité qui avait été attaquée par un certain nombre d'États européens, et donc c'était remonté au niveau de la Cour de justice de l'Union européenne. J'ai entendu parler, comme vous, du fait que certains États avaient, que cette démarche avait eu gain de cause. Honnêtement, je n'ai pas en tête les prochaines étapes concrètes pour revenir sur cette mesure qui a été instaurée par le paquet mobilité, mais en effet, c'est potentiellement un élément important qui impacterait le marché, puisque en termes de disponibilité de véhicules, alors il faut voir quelle est l'obligation pour le conducteur malgré tout, hein, lui de continuer à retourner à sa base régulièrement, mais en termes d'offres de transport international en Europe, forcément ça augmente la capacité. Alors on l'a dit, on est depuis 2 ans dans une période quand même de plutôt surcapacitaire, donc ça aurait moins d'impact si c'était le cas aujourd'hui. Mais forcément, ça a un effet sur l'offre de transport.
Très bien. Merci Valérie. Merci Xavier. Merci à tous les deux pour cette présentation et pour vos réponses. Nous arrivons donc au bout de la session de cette enquête chargeur pour cette année. Nous vous remercions à toutes et tous de nous avoir écoutés. Par ailleurs, un replay sera certainement disponible dans les prochaines semaines, ainsi que le rapport donc détaillé qui vous sera fourni avec encore plus de questions et des réponses plus fines sur certaines questions. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Merci.